Le grain de sable. Pensée globale. Agir local. Le grain de sable.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Voilà, pour la dernière émission de l'année, Grain de sable a le plaisir d'accueillir Couleur Palestine. Vous savez que la Palestine est souvent parmi nous. Nous avons accueilli déjà la FPS, Association France-Palestine Solidarité, les Femmes en Noir, l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Et ce soir, nous allons donc parler de Couleur Palestine, qui est une autre association qui fait partie du collectif 69 pour la Palestine. Voilà. Alors, aujourd'hui, première soirée des Lumières à Lyon. Nous allons donc mettre l'émission aux couleurs de la Palestine avec Joe, qui est là parmi nous.
Bonjour.
Mano, qui est présidente de Couleur Palestine.
C'est ça.
C'est ça. Et Marie-Claude.
Bonsoir.
Qui nous parlera tout à l'heure, tout particulièrement des deux jours de ce week-end consacré aux 10 ans de Couleur Palestine. Alors, on va commencer par présenter Couleur Palestine. En quoi cette association est différente peut-être des autres? Quelle est sa particularité? Peut-être aussi sa particularité culturelle et d'organisation de voyage. Mano?
Voilà, Couleur Palestine, en fait, est née il y a 10 ans, après un voyage qu'on avait fait, une bande d'amis, on était 7, de la région lyonnaise, surtout du sud-ouest lyonnais, Saint-Genis-Laval, Oulin, en Palestine, avec une petite agence qui démarrait à ce moment-là, qui est devenue une assez grosse agence de voyage, D1 Voyage, qui est notre partenaire habituel maintenant. Et quand on est revenu, on avait rencontré des associations, on avait rencontré des Palestiniens, nos hôtes Palestiniens, on avait pas mal échangé, et tous nous ont demandé de témoigner de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait appris, de ce qu'on avait compris à nos amis français. Et on s'est vite rendu compte que si on passait pas par le biais d'une association, on serait vite isolé et ça sortirait pas de notre cercle d'amis habituels. Donc nous avons créé cette association qui donc va avoir ses 10 ans et effectivement c'est la meilleure des solutions pour pouvoir diffuser l'information et pour voir apparaître, pour obtenir des salles, pour avoir un certain nombre d'actions et d'animations. Son objectif donc c'est de diffuser la culture palestinienne, mais quand je parle de culture palestinienne, c'est quand même au sens large, c'est l'art, l'artisanat bien sûr, mais c'est aussi l'histoire, c'est aussi la situation actuelle, politique, c'est aussi la géographie, et l'histoire elle remonte à très très longtemps. Et donc pour ça, on organise des ciné-débats, on en a fait peut-être une vingtaine avec différents partenaires. On vend des produits palestiniens avec notre partenaire Le Philistin, France Import Palestine, qui vend uniquement et exclusivement des produits palestiniens. Donc on fait un certain nombre de marchés où on anime certains événements. Merci. Et surtout, on s'est dit... Bah, l'expérience que nous, on a vécue au début, il faudrait qu'on la fasse partager à d'autres, parce que franchement, c'est le meilleur moyen d'aller quand on va en Palestine, de se rendre compte vraiment sur place, d'échanger avec les gens, de les écouter, de comprendre leur vie, de voir leur détermination. Et je pense que quand on va en Palestine, on en revient un peu changé, un peu beaucoup changé, et qu'on n'est pas le même en revenant. Et ça, c'est important. Et depuis, on a peut-être emmener 150 à 200 personnes en Palestine par le biais de notre partenaire D1 Voyage, qui est une agence francophone de voyage qui est située à Ramallah et qui organise vraiment des voyages originaux qui mêlent la culture, la connaissance culturelle effectivement du pays, mais aussi de la randonnée et surtout des rencontres avec les Palestiniens.
C'est vrai que cette notion de voyage est très importante. D'ailleurs, toutes les associations qu'on a accueillies nous le disent. Hein. Moi, je suis partie en 2011 avec la FPS 63, puisque à l'époque j'étais sur le Puy-de-Dôme. Et c'est vrai que malgré le fait que, comme beaucoup de personnes, hein, moi je m'intéressais à la Palestine, j'allais au débat, j'allais aux conférences, j'allais au cinéma, etc. Mais rien de tel que d'être sur place pour se rendre compte de la difficulté que vivent les Palestiniens, les Palestiniennes tous les jours en Cisjordanie. Gaza, on ne peut plus y aller, quasiment, mais c'est devenu une prison à ciel ouvert. Hein, ce sont même les Palestiniens qui le disent eux-mêmes, les Gazaouis. Mais c'est vrai que d'aller sur place, de se rendre compte de ce que peuvent vivre ces personnes, des personnes qui ne sont pas forcément, on va dire, engagées, militants, etc., mais qui, tous les jours, doivent développer une énergie considérable pour survivre.
Exactement.
Donc le voyage, c'est vrai que c'est important. Mm-hmm. C'est important d'organiser. Alors, les personnes qui s'inscrivent à vos voyages, vous les contactez comment? Ils viennent à vous comment? Enfin, comment vous arrivez à toucher les personnes qui viennent à ces voyages?
Alors ça, c'est beaucoup fait par le bouche à oreille. Parce que quand quelqu'un est parti, il en parle autour de lui. Moi, je crois beaucoup à cette diffusion de l'information comme ça, un petit peu comme une pierre qu'on jette dans l'eau, et avec les différents ronds, on élargit l'audience de plus en plus. Et c'est essentiellement comme ça qu'on a recruté un certain nombre de voyageurs, mais aussi quand on fait des films débat, il y a toujours une centaine de personnes et plus, donc on en profite pour en parler, on diffuse, on a un site internet qui est modeste, hein, mais chaque fois on a les annonces de nos voyages dans ce site. Voilà, c'est à peu près les...
Couleur Palestine est basée où? On ne l'a pas dit au début de
l'émission. À Saint-Genis-Laval. On est un noyau de Saint-Genois. Et puis après, effectivement, il y a des Oulinois, puis il y a des Lyonnais, etc. Des gens autour ou de la région qui sont aussi adhérents à Saint-Genis. Mais disons que l'adresse est à Saint-Genis-Laval.
D'accord. Cela dit, ça permet, puisque avec le collectif qui est composé de d'autres associations, ça permet finalement de couvrir une aire géographique assez intéressante.
Exactement.
Alors je reviens au voyage. Oui, c'est important cette activité voyage, parce que oui, Dieu va, je pense témoigner, etc. Parce que je voulais revenir quand même sur l'aspect politique, l'organisation des voyages, parce que aujourd'hui. Il n'est pas rare qu'on se rende compte que les grands organisateurs voyagistes, des voyagistes hein, traditionnels, etc., oublient, suppriment même de leur catalogue le mot Palestine, alors qu'ils proposent des choses à Bethléem, par exemple. Mais on s'aperçoit que le terme Palestine est rayé régulièrement des cartes, et même donc des déroulés de voyage. Donc c'est important, il me semble.
Exactement. On propose vraiment des voyages différents. Bien sûr, on va visiter Jérusalem, bien sûr, on va visiter Bethléem, mais aussi Naplouse, mais aussi Hébron. On va visiter la campagne. Et comme je vous disais, c'est aussi basé sur l'échange et la rencontre. Donc, dans nos voyages, c'est complètement différent de ce que proposent les voyagistes habituels. Bien qu'il y ait eu quand même... Il y a certains voyagistes, par exemple Arvel, qui proposent un voyage en Palestine avec la même agence de voyage que nous, D1 Voyage. Donc il y a quand même certaines agences, certains voyagistes...
C'est le Sentier d'Abraham en particulier.
Exactement. Il ne faudrait pas non plus que le sentier d'Abraham devienne un peu comme les pèlerinages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont en pèlerinage en Terre Sainte et qui passent de Jérusalem à Bethléem sans voir le mur de séparation, sans savoir ce qui se passe de l'autre côté. Un peu comme des autistes qui traversent un tunnel, qui vont voir l'église de la Nativité. L'église de la Nativité, et qui repartent de la même façon. Et le sentier d'Abraham, ça pourrait risquer aussi d'être un sentier pour des gens qui ont envie de marcher, qui marchent dans un désert, mais sans se rendre compte un petit peu de la situation réelle. Alors là, il y a quand même souvent les guides qui ont été formés, qui sont des guides palestiniens. Il y a des échanges avec eux et eux peuvent leur parler de leur quotidien. Très souvent, on est confronté aux colonies quand on marche, aux colonies qui nous surplombent ou à des villages qui ont d'énormes problèmes du fait de la situation.
En dehors des voyages, donc organisation de conférences, de ciné-débats, on va revenir hein, sur les voyages. Je sais que Jo va nous en parler, bien entendu. Il piaffe d'impatience. Donc, des voyages, donc des ciné-conférences, etc., des cinémas, des conférences. Est-ce que vous intervenez dans d'autres lieux? Je pensais par exemple aux environnements, aux établissements scolaires. Ou est-ce que vous organisez des choses, par exemple, toujours avec les voyages d'ailleurs, hein, sur la collecte des olives? Est-ce que ou c'est trop, ça serait trop difficile pour votre association?
Alors, je sais que Diwan Voyage a proposé une fois, ça dépend d'abord de la période, là, notre prochain voyage est au mois de février, donc c'est pas l'époque de la cueillette des olives, et Diwan Voyage a proposé une journée de cueillette. Alors, c'est un peu anecdotique aussi de faire une journée de cueillette, mais c'est toujours un moment intéressant où on peut croiser des agriculteurs qui ont toujours d'énormes difficultés pour aller dans leurs champs, etc., et échanger. En fait, que ce soit... quel que soit le thème et l'activité proposée, l'important, c'est de rencontrer des gens dans quelque milieu que ce soit. Et on a toujours... des coups de cœur, on a toujours des gens qui nous épatent, qui nous sidèrent par leur volonté de vivre et de résister dans leur vie quotidienne. Et quelle que soit la façon dont on va les aborder, que ce soit en cueillant des olives, que ce soit en visitant un lieu, que ce soit en rencontrant une association.
D'accord. Alors sur la vente de... Oui, pardon.
Juste pour répondre à ta question concernant donc l'activité en direction des jeunes, Couleur Palestine à plusieurs reprises a fait des séances de cinéma dans des collèges du monde du Lyonnais, avec des élèves en général de première et terminale, qui ont la Palestine à leur agenda, et on est allé avec Mano deux ou trois fois, et c'est vrai que c'est très très intéressant de voir ces jeunes confrontés à une situation qu'ils ne connaissent en général que à travers des manchettes de journaux quand il y a un bombardement sur Gaza ou autre.
Je pensais à ça parce que on en parlera tout à l'heure, hein, mais dans le programme de ce week-end, il y a un jeu vivre. Oui. Donc je me disais peut-être que c'était, alors peut-être que je me trompe, c'est pas forcément adressé aux plus jeunes, c'est peut-être tout public, mais en fait c'est ce qui m'y a fait penser finalement à l'intervention auprès des scolaires pour présenter les choses un peu différemment.
Oui, pour parler du jeu, mais je ne vais pas...
Non, mais tu le connais mieux que moi, je l'ai fait.
on en parlera tout à l'heure dans le programme, hein, parce que, en fait, c'est ça qui m'y a fait penser.
Oui, mais tout à fait. Dit,
voilà. Alors, Joe, ses voyages.
Oui, alors, je me suis toujours intéressé à l'histoire, aux sociétés, aux problèmes du Proche-Orient. Et je suis allé, entre autres, deux ou trois fois au Liban. Et puis en 2009, quand Couleur Palestine s'est créée, dont je connaissais Manoul, sa présidente, et elle m'a parlé des voyages, effectivement, que Couleur Palestine ambitionnait de faire. Et donc dès la création, dès 2009, j'ai participé avec une douzaine de personnes, à la fois des jeunes, des moins jeunes et des vieux comme moi, à un premier...
Intergénérationnel, comme la manifestation d'aujourd'hui.
Voilà.
Je l'ai passé.
Donc, ça a été le premier voyage, donc, effectivement, j'ai apprécié particulièrement la qualité de l'accompagnement qu'on trouve avec Diwan Voyage, en particulier avec son principal responsable qui s'appelle Sabri Giroux, qui est un grenoblois qui a une formation d'archéologue, qui est allé faire un stage à Gaza, qui s'est pris d'affection pour ce pays et d'affection pour une Palestinienne, donc c'est marié là-bas avec une Palestinienne, et depuis, bah, il a pris son nom de Sabri et il a monté cette petite agence. Donc ça, c'était le premier voyage, donc. Après, j'ai fait un deuxième voyage en 2012. Oui, c'est ça. Du 12 au 22 novembre 2012. C'était là une période où il y a eu conflit armé entre Israël et Gaza. Je me souviens d'une... On était allé, c'est rare qu'on fasse ça avec des bons voyages, mais on était allé passer une journée à Jaffa. Jaffa se trouve en Israël et non pas en Cisjordanie occupée. Et là, on avait rendez-vous avec un jeune historien qui était le seul élu palestinien à la municipalité de Tel Aviv. Tel Aviv, donc, c'est la grande ville qui s'est créée à côté de Jaffa. Jaffa était la ville palestinienne portuaire et exportatrice et qui a été rasée par les Israéliens en 48. Ils n'ont conservé que le port et vraiment le petit cœur de l'ancien village, de l'ancienne ville de Jaffa. Donc on est allé rencontrer cet historien et on se baladait sur la plage quand tout à coup les sirènes ont sonné et c'était un missile qui allait de Gaza à Tel Aviv, qui a explosé en l'air, je ne sais pas combien, 500 mètres de nous. Et donc on était bien dans l'ambiance de ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'était le deuxième voyage. Et puis j'ai fait un troisième voyage cette année, début 2019. Et ce voyage, alors, il a été partagé en deux, à la fois avec des... comme d'habitude, visite des principales villes de Cisjordanie, mais également on a consacré 4 jours à marcher justement sur le sentier d'Abraham. Et je me rappelle, et là, dans ce voyage, il y avait à peu près la moitié des personnes, c'était la première fois qu'elles allaient en Palestine. Et je me rappelle leur stupéfaction quand, au détour d'un chemin, on bute tout à coup sur un mur de 6 mètres de haut, des barbelés, etc., etc. Voilà, donc un peu ce que je peux dire de voyage en Palestine. Alors, il y a un voyage qui est programmé pour le début de l'année 2020, d'un dimanche à un autre dimanche, exactement, entre le 23 février et le 1er mars 2020, avec donc visite de Jérusalem, Bethléem, Hébron, Naplouse, Sabastia, Jéricho, Ramallah, les villes principales, avec, comme toujours, des rencontres avec des associations, des syndicalistes, des jeunes, des associations de femmes, etc. Et ce voyage, donc, de 8 jours, pourra, selon la demande, pour certains, se prolonger par de nouveau 4 jours sur le sentier d'Abraham. Voilà.
On le redira tout à l'heure, hein. On donnera de toute façon les coordonnées de l'association, hein, parce que s'il y a des personnes intéressées, oui, c'est important de visiter, enfin, je vais rajouter, parce que différentes villes, parce que ce sont des villes avec des ambiances, hein, c'est, je pense que c'est le terme, des atmosphères très très différentes, hein, du fait de la colonisation. Hébron, la colonie, est à l'intérieur de la ville, donc c'est une situation, et d'ailleurs vous en reparlerez, je pense, avec une invitée particulière cette année, hein, qui participe aux 2 jours et qui sera aussi à la Maison des Passages demain soir. Voilà. Hébron est une ville très très particulière. Ramallah, c'est encore autre chose. Mais moi, j'ai un petit faible pour Naplouse, je vous le dis, parce que c'est une ville magnifique.
Oui.
C'est une ville magnifique, avec une vieille ville magnifique. Mmh. Donc, j'en garde un souvenir extraordinaire, malgré la situation où on voit encore les impacts de balles, etc., etc. Parce que, en fait, toutes ces villes sont entourées soit de colonies, où on croise de toute façon les militaires, les checkpoints, etc. Donc, c'est important, effectivement, de voir plusieurs villes différentes, parce que elles ne vivent pas tout à fait de la même manière.
Tout à fait. Jérusalem, c'est exceptionnel. Cette ville-là qui est partagée donc par les Israéliens en une partie israélienne et une partie palestinienne, mais qui est le lieu des trois religions monothéistes, et avec à la fois une ambiance extraordinaire du fait de la présence de ces trois religions, mais aussi donc avec source de tension, justement à cause de cette présence que chacun veut un petit peu hégémonique.
Je pense qu'entre 2009, c'est ça ton premier voyage, et cette année 2019, tu as vu que Jérusalem évolue malheureusement contre les Palestiniens, puisque les
plus en plus judéisés.
Alors, on va peut-être faire juste un petit rappel de l'actualité, parce que tu m'y fais penser du coup là, Joe. Puis après, je vous proposerai une petite pause musicale. On reviendra à Couleur Palestine et à ses 10 ans. Voilà, tu m'y fais penser parce que il y a, je crois que c'est 2 ans maintenant, que l'État d'Israël a voté, comme un État juif, suprême juif, je ne sais plus exactement quels sont les termes, et donc a institué officiellement, on peut dire ça, officiellement aujourd'hui, on sait, il n'y a pas de un État d'apartheid. Je pense à ça parce qu'il y a eu peu de réactions de la part de nos gouvernements, etc. Et aujourd'hui, en France, l'Assemblée nationale vient d'être votée, alors dans des conditions très particulières, ce qui me fait dire que finalement, elle n'est pas passée comme ils voulaient la passer, et tant mieux. C'est la fameuse résolution dite Maillard, qui voulait en fait adopter la définition de l'antisémitisme. En voulant finalement mettre sur le même plan l'antisionisme et l'antisémitisme. Autour de cette table, Lydie comprise, qui est à la technique, on est bien sûr convaincu qu'il faut se battre contre tous les types de racisme, dont l'antisémitisme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais cette définition voulue par la résolution Maillard est très ambiguë, et elle voulait être très ambiguë parce qu'elle voulait en fait mettre sur le même plan l'antisionisme et l'antisémitisme. Cela dit, cette résolution a été votée. Ce n'est qu'une résolution, ce n'est pas un texte législatif, etc. Donc il y a une portée limitée. Mais en plus, les conditions de vote sont quand même assez remarquables, au sens premier du terme, puisque une grosse partie des gens qui normalement avaient signé la première motion pour cette résolution, en fait, ne se sont pas présentés au vote. Tant parce que cette résolution est très ambiguë, dangereuse, ambiguë, et que finalement elle est trop clivante et trop dangereuse. Et je pense qu'une partie des députés de La République En Marche, qui est majoritaire à l'Assemblée, s'est aperçu qu'effectivement même des associations des droits de l'homme disaient attention là, c'est mettre le doigt dans un engrenage que ne vous maîtriserez pas en fait. Donc elle a été votée, mais elle a été volée vraiment à minima, et donc du coup on va dire que je pense que c'est quand même une forme de réussite de toutes les pressions que toutes les associations ont fait auprès des députés et des députés. Voilà. Je ne sais pas si Joe, tu veux
Juste pour dire que suite à effectivement une campagne de mobilisation des associations du Rhône et des particuliers auprès des élus du Rhône. Et seul un député du Rhône a voté pour la résolution, 2 ont voté contre, et tous les autres n'ont pas participé à la séance.
Voilà, en fait, les députés ne se sont pas abstenus, ils ne sont pas présentés au vote.
Ils ne sont pas présentés au vote, voilà. Alors bon, cette résolution, bon, effectivement, sur le problème antisémitisme, antisionisme est tout à fait ambigu, mais je pense surtout que c'est quand même une résolution qui allait dans le sens de la restriction du droit à la parole des citoyens. Voilà. Et elle est dangereuse dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle restreint la liberté d'expression.
L'expression politique en particulier.
Si elle devait passer
Les exemples qui étaient donnés n'ont pas été votés normalement, hein, mais c'est très ambigu. Tout était ambigu finalement dans cette procédure. Finalement, on ne pourrait même plus critiquer du tout l'État d'Israël dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État d'Israël bafoue les résolutions de l'ONU, bafoue le droit international, puisque je rappelle quand même, et vous serez d'accord avec moi, que les colonies sont illégales, malgré ce qu'a dit M. Trump, président des États-Unis. Les colonies sont illégales, de par le droit international. L'emprisonnement des enfants est aussi... pas illégal, c'est complètement... Le fait que les prisonniers aussi... Il y a de nombreux prisonniers palestiniens qui n'ont même pas eu de procès, qui sont en détention administrative, qui sont détenus hors la Palestine, hors Cisjordanie, c'est-à-dire en Israël, ça c'est interdit sur le droit international. Enfin, Israël bafoue tous les jours le droit international et bafoue les droits de l'homme et les droits des Palestiniens.
Exactement.
Oui, il y a 15 jours, il y a prisonnier palestinien qui était en prison depuis 15 ans et qui est mort d'un cancer qui n'a pas été soigné volontairement, on peut dire, dans les prisons israéliennes. Et effectivement, c'est révoltant aussi. Voilà.
Et ce prisonnier avait demandé à pouvoir mourir dans les bras de sa mère, ce qui lui a été refusé. Et la plupart du temps, il garde les corps, il les restitue pas à la famille jusqu'à ce que la peine soit...
Maintenant, ça va plus loin, puisqu'ils viennent de faire passer... un décret comme quoi les corps ne seraient pas rendus. Même après qu'ils aient pu purger leur peine post-mortem. Jusque-là, ils ne les rendaient qu'une fois la peine post-mortem purgée. Là, maintenant, ils ne les rendent plus du tout.
Non, c'est vraiment une humiliation permanente. Enfin, donc, je vous propose, avant d'en venir aux 10 ans de couleur Palestine et de ce merveilleux programme de 2 jours, eh bien, je vous propose une petite pause musicale.
Oh,
ma sélection, oui, c'est un morceau de l'ensemble de musique arabe, l'ensemble palestinien national de musique arabe. Et cet ensemble, il a été créé par Ramsi Abou Redouan, qui est un jeune palestinien qui est né, qui a grandi dans un camp de réfugiés à Ramallah, près de Ramallah, et qui a eu la chance de pouvoir entrer au conservatoire Edouard Saïd en Palestine et de faire une partie de ses études musicales après en France. Je crois que c'est à Poitiers, mais je ne suis pas certaine si c'est Angers, Poitiers, là je ne suis pas très bonne en géographie. Et il a décidé aussi de redonner à son pays ce que son pays lui avait permis de faire. Et donc il a créé cet ensemble. Et notamment, si vous avez l'occasion de voir, il y a eu un film qui a été fait qui s'appelle Just Play. Et il avait réuni un certain nombre de musiciens, de grands musiciens du monde entier, et pour des concerts en Palestine, mais dans des endroits un peu improbables, et notamment à des checkpoints ou à des endroits qui étaient interdits. Et il leur disait vous répondez pas. Il y avait aussi des jeunes palestiniens, des musiciens, jeunes musiciens palestiniens qui étaient. Vous répondez pas aux provocations, vous répondez pas si on vous dit de partir, just play, seulement, vous jouez seulement. Donc c'était très intéressant son film et son projet, quoi.
Alors on va, d'ailleurs pendant ces deux jours, on va venir aux 10 ans, à l'événement des 10 ans de Couleur Palestine, ce week-end là à Saint-Genis, Laval. Et donc je sais qu'il y a la projection du film de Roland que nous avions accueilli il y a un an, en fait, qui était venu nous parler de son film Le Char et l'Olivier, il y a tout juste un an, je dirais. C'était, je crois, aussi la dernière émission, ou il y a 2 ans. Il y a un an.
Un dernier.
Il y a un an.
Roland, qui a rencontré la Palestine avec Couleur Palestine, c'est un de nos adhérents. Et la première fois qu'il est parti en Palestine, c'était avec un de nos voyages. Et il est retourné 2 autres fois, toujours avec un de nos voyages. Et il a eu cette idée de... lui aussi, de témoigner par
Ah oui, j'avais un doute, parce qu'en fait, je me demande si c'est pas les femmes en noir avec qui on a commencé l'année. Enfin, j'avais un petit doute, on avait fini l'année avec la Palestine et commencé l'année avec la Palestine. Mais c'est merveilleux.
Ah. Oui, puis en plus, le film a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Hein. Je crois que quand il est passé au Comédia, il y a 50aine de personnes qui n'ont pas pu rentrer. À Sainte-Foy-les-Lyons, il y en a 30aine qui sont aussi restées dehors, alors que c'est des grandes salles quand même. Hein, voilà. Donc c'est un film qui marche bien. Et moi, hier soir, j'étais à Sainte-Foy, justement, pour le film Grande Sainte. Et il y a une dame à qui je distribuais un flyer des 10 ans qui m'a dit « Oh, j'ai vu le film de Monsieur Mourier, il est magnifique, c'est extraordinaire, il nous apprend beaucoup de choses. »
Oui, j'ai eu des échos aussi par des personnes qui sont pas forcément engagées, bon, qui s'intéressent, hein, bien sûr, mais qui sont pas forcément engagées, et trouvent que c'est un film très pédagogique.
Oui, exactement.
Abordable, enfin voilà, donc c'est vraiment... Alors, donc c'est 10 ans, 2 jours de festivité entre guillemets.
Voilà.
Enfin, est-ce que la rencontre avec, je sais plus comment elle s'appelle, Débron, on peut considérer que ça fait partie de
Nisrine.
Elle sera demain soir à la Maison des Passages.
Voilà.
Bon, alors...
Alors, bah écoutez, le programme démarre donc à 14h le 7 décembre avec 2 temps forts, donc avec Sabri Giroud, dont a parlé Jo tout à l'heure, qui est donc le directeur de Diwan Voyage, qui parlera de son engagement et de celle de son équipe pour favoriser les échanges, pour faire des voyages un petit peu différents, sur mesure, avec une connaissance plutôt fine de leur culture et de leur quotidien. C'est vrai que moi j'ai aussi fait ce voyage-là avec Diwan. On avait fait aussi une partie sur le sentier d'Abraham, mais on avait rencontré aussi des agriculteurs, on avait rencontré également on est allé aussi dans un camp de réfugiés. C'est vrai que c'est très intéressant, quoi. La manière dont Diwan propose ses voyages, c'est très divers et c'est très riche, et on comprend bien aussi l'histoire. Donc Sabri, voilà, viendra parler de son agence de voyage. Ensuite, on aura un deuxième temps fort donc avec Nisrine Hachem Azeh, qui est donc cette palestinienne d'Hébron, qui viendra avec sa fille et qui résiste un peu à la pression, je dirais, israélienne, notamment vis-à-vis de son habitat et tout, et qui finalement résiste à travers la peinture. C'est un moyen pour elle de résister et tout. Donc elle présentera également durant ces deux jours un certain nombre de ses tableaux.
Et mais il faut dire donc, à propos de Nisrine, que cette jeune femme, nous l'avons rencontrée justement lors du dernier voyage que j'ai fait au printemps. C'est là qu'on a loué, qu'on a noué des liens et qu'on a décidé de la faire venir, lui faire faire une tournée en France.
Ouais. Oui, c'est pas une artiste,
c'est... Non, c'est elle, puis elle, je crois même, je pense voilà. même qu'elle se qualifierait pas elle-même non. de peintre ou d'artiste. Voilà.
Elle, son mari était un militant palestinien d'Hébron, et il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, au cours d'une altercation avec les Israéliens, il y a eu des bombes lacrymogènes lâchées, il a fait un arrêt cardiaque, la famille a appelé les secours, ces secours ont été bloqués au checkpoint, et son mari est décédé donc avant que les secours arrivent. Voilà. Donc elle va venir témoigner de la situation là-bas, et sa fille, qui est étudiante à Hébron, parlera effectivement de sa vie étudiante dans cette ville.
Voilà, donc entre ces deux temps forts, eh bien, nous aurons des expositions. Le jeu dont Manu peut peut-être parler un petit peu, de vivre en Palestine.
Alors c'est un jeu qui a été... qui a été mise en place, inventée, je dirais, par le CCFD, le Comité catholique contre la faim dans le monde et pour le développement. C'est un jeu de mise en situation. Donc c'est un jeu qui dure longtemps, c'est pour ça qu'il fallait au moins une tranche de 2 heures, parce qu'on ne se met pas en situation pour 5 minutes seulement. C'est pas un jeu qui se joue avec des dés, etc. Mais on propose différentes situations, et par un jeu de tirage de cartes, etc., on demande aux joueurs d'être dans la peau d'un Palestinien. Donc dans différentes possibilités, soit à un moment donné, je sais qu'il y a une troupe de danse ou une troupe de musique qui veut faire un tour en Cisjordanie et qui est bloqué à chaque checkpoint, qu'il faut qu'ils aillent chercher une autorisation, on la leur refuse, il y a toujours quelqu'un qui manque, etc., etc. Il y a aussi une situation qui est très intéressante, c'est les Palestiniens qui, du fait de leur habitat géographique, je dirais, ont changé de multiples fois de statut. Ils ont été jordaniens, ils ont été, après, ils étaient réfugiés, apatrides, et ils ont, chaque fois, ils avaient une carte d'identité, si on peut appeler une carte d'identité, mais c'est même pas, mais un papier, parce qu'ils ont même pas de carte d'identité précise, mais un papier qui était différent, et ils dépendaient jamais de la même administration en fonction des années. Donc, c'est vraiment intéressant de faire ce jeu, parce que on voit que c'est pas simple du tout, même si on connaît, quand on essaye de se mettre à la place, alors uniquement dans le jeu, hein, effectivement, on n'est pas non plus, ne serait-ce que dans la véritable atmosphère et qui vivent quotidiennement, mais quand on essaye de se mettre à la place de ces gens, on voit quelles sont les embûches quotidiennes pour travailler, pour étudier, pour faire une activité quelconque, musicale ou autre, pour voyager. Parlons pas du voyage qui est hyper compliqué pour eux. Et voilà, donc on est vraiment content de pouvoir présenter ce jeu pendant l'après-midi.
Également, donc, durant l'après-midi, nous avons des adhérentes et adhérents qui viendront réciter des poèmes palestiniens. Il y aura des expositions de photos, notamment de jeunes de Bethléem sur le thème de l'eau, qui est un projet de l'association AFAC. Et puis, nous aussi, hein, des expositions de nos différents voyages, donc des expositions de photos de nos différents voyages aussi. À partir de 19h30, on peut citer peut-être la petite Syrienne, qui viendra nous offrir un repas, un buffet oriental. Et puis la soirée démarrera après à une soirée plus festive, hein, avec l'ensemble Al-Gut, qui est un ensemble de musiciens palestiniens, et également du dabké, donc une danse avec des danseurs palestiniens. Voilà. Et puis donc, effectivement, le dimanche, pour ceux qui veulent prolonger, nous pouvons faire une visite. On peut poursuivre les échanges avec des participants, bien sûr, qui seront encore là. J'ai peut-être oublié de citer également l'autre exposition, notamment une librairie qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, la librairie La Clé de Lecture, qui viendra présenter des livres, une table de livres, et puis un certain nombre de partenaires comme le collectif 69, les Femmes en Noir, la FPS, l'UJFP, qui eux aussi viendront proposer des documentations tout autour de... Voilà. Et puis également un stand d'artisanat et de vente de produits palestiniens, donc par le Philistin, dont a parlé aussi Manu tout à l'heure.
Qui sera présent, il me semble, au marché de Noël de...
Qui est présent.
Alors, je vais quand même signaler aussi que la FPS, puisque moi je suis
membre de
la FPS, donc sera à Villeurbanne deux jours, samedi et dimanche. Donc ça fait 14 et 15 peut-être, c'est pas le week-end prochain, mais c'est l'autre, avec traditionnellement aussi, donc
les produits.
Vous pourrez offrir des tas de jolies choses palestiniennes pendant les fêtes de Noël.
Juste un petit complément, mais ce que vient de dire Marie-Claude, c'est que les poésies vont être dites en français et également... en arabe. On a un des adhérents de Couleur Palestine, Abdelrahim Abdelrahim, qui a une belle voix et qui donc récitera ses poésies dans sa langue natale.
Et alors, en parlant du marché de Noël, là, j'ai une petite anecdote. Je passais sur le stand du Philistin, je suis resté quelque temps un dimanche, et j'ai rencontré un jeune qui a dit « Mais moi, je suis palestinien. » Et donc, je lui parle de la fête qu'on va organiser. Et je lui dis « Vous êtes d'où ?» Il me dit « d'Hébron ». Et je dis « Ben justement, il y a une dame d'Hébron qui vient. » Et je lui donne le nom. Et il me dit « Mais je la connais très bien. En fait, je fais partie de France Hébron. » Et j'étais, il y a quelques années, avec son mari qui était guide. On avait fait une visite avec des Français d'Hébron. On a mangé ensuite chez Nisrin, et en sortant, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le tir des grenades lacrymogènes, et donc, comme Jo vous l'a expliqué, et je lui dis, mais alors venez, ça va être émouvant de vous revoir en terre lyonnaise.
Tout à fait. Bien sûr. Et puis donc, quand même aussi, le cinéma La Mouche passe également le film de Roland Nurier le dimanche. Il le passe à partir de 15h30.
Alors, il faut bien préciser
et en présence...
l'adresse de cette fête.
Ah oui, alors, l'adresse de cette fête. Et puis, également, peut-être donner, si les gens veulent encore s'inscrire, il y a le site qui s'appelle www.couleurpalestine69.fr. Et puis, l'adresse donc pour le samedi, c'est la salle d'assemblée des Basses Barolles, 52 Place des Barolles à Saint-Genis-Laval.
D'accord.
Et alors, j'en profite aussi pour préciser que le lendemain, on avait peut-être mis l'adresse d'une salle qu'on nous avait proposée et promise, et on n'a pas pu avoir cette salle au dernier moment, donc on se retrouve pour des échanges informels, notamment avec Sabri et avec Nisrin, dans une autre salle qui s'appelle la salle de la Caponnière, rue de la Ville, à Saint-Gilles-Laval, et c'est entre la rue de la Ville, c'est une rue piétonne, et c'est entre deux restaurants, le Rochefort et le Mitant, et là il y a une porte, vous poussez la porte, vous montez l'escalier, et on peut se retrouver encore le dimanche matin.
Ça sera le dimanche matin.
Ça, c'est le dimanche matin, c'est plus informel le dimanche matin.
Avant donc la projection du film Le Char et l'Olivier, à 15h. Est-ce qu'il faut mieux réserver ou pas? Ça se fait directement
pour le film.
Pour le film, non, on peut prendre sa place. Alors, il ne faut pas venir trop tard, parce que, comme on vous a dit, il y a quand même plein de... Je ne sais pas d'ailleurs si... c'est pas nous qui l'organisons, c'est le cinéma La Mouche. Et je ne sais pas s'ils prennent des réservations. Effectivement. Mais sinon, il vaut mieux y aller quand même de bonne heure, parce que c'est vrai que les salles sont souvent complètes pour ce film.
Oui.
Et puis, on le répète, c'est vraiment un film incroyable, puisque, alors, Roland a choisi d'interviewer un certain nombre de personnes, hein, israéliens, palestiniens, et puis des personnalités fortes. Et donc, c'est vraiment très... c'est pédagogique, parce que ça nous permet de comprendre, au fil de l'histoire aussi, ce qui a pu se passer.
Exactement.
La première partie... raconte l'histoire de la Palestine de la première moitié du XXe siècle. Et la deuxième partie, c'est... Alors, cette première partie, elle est essentielle parce qu'elle permet de comprendre ce qui s'est passé ensuite. Et donc, la deuxième partie est faite d'interviews, comme tu viens de le dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont l'interview de personnalités reconnues, des historiens, des politologues, le délégué général de la Palestine à l'UNESCO, enfin bon, donc c'est des gens qui connaissent bien la situation et le problème, et il est difficile de contredire ce qu'ils expliquent.
Oui, Roland Nurier a toujours dit qu'il voulait faire un film, non pas pour des militants qui étaient déjà engagés, etc., mais un film grand public, tout public, pour faire comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi aussi quand même un certain nombre de personnes se battent. Et pourquoi on se bat ? Parce que ces Palestiniens sont quand même des personnes avec une grande...
Et ce film qui a trouvé un distributeur, donc, passe en salle à travers cette distribution depuis le mois d'octobre. Il en est à 15 000 entrées aujourd'hui.
Alors, je ne vais pas faire de la pub, mais enfin, j'ai vu qu'il y avait un très très joli commentaire de ce film dans Télérama.
Oui, 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 oui. Exact.
Télérama, oui, aussi, et donc, La Croix. Aussi.
Voilà,
oui, oui.
Et donc c'est vraiment un film qui est soutenu aussi par différents médias, et c'est tant mieux. Mm-hmm. Et c'est vraiment tant mieux, parce que ça vaut le coup.
Et d'ailleurs... si je voudrais préciser que le sous-titre de ce film, c'est Une autre histoire de la Palestine.
Tu as raison, Manon.
C'est très important. Oui.
C'est très important.
Et puis ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dimanche après-midi, Roland sera toujours présent. Il est présent à pratiquement toutes les projections pour animer ensuite un débat. Et ça, c'est extraordinaire. Quand même.
C'est devenu un grand voyage.
Oui. Ah oui, parce qu'il passe dans toute la France là, maintenant depuis le 6 novembre en sortie officielle.
Donc c'est deux jours. Donc c'est une manière de mieux connaître la Palestine à travers donc des photos. Tu as évoqué les photos, je reviens là-dessus, parce que les photos sur l'eau, sur le projet... une ressource importante, précieuse. C'est aussi un moyen de pression, oui. On va le dire, on va le redire, hein, des Israéliens contre les Palestiniens, c'est un moyen de pression.
C'est une ressource spoliée par les Israéliens. Qui met en difficulté les habitants à la fois des campagnes, mais également des villes. On a l'exemple de Gaza, où aujourd'hui on dit que 90% de l'eau est polluée à Gaza.
Oui. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment les épandages d'herbicides ont été arrêtés là par Israël sur la bande frontière. Enfin bon, effectivement, on dit que Gaza n'aura plus d'eau... d'ici quelques années, ouais. Je crois que c'est
très peu d'années.
Très peu d'années. Je ne sais plus quelle est l'échéance.
Un ou deux ans, oui.
C'est un rapport officiel qui l'a dit. Donc des expositions, donc les œuvres artistiques quand même, hein, de
Nisrine,
voilà, qui exprime finalement sa situation, parce que Hébron, je le rappelle, La colonie d'Hébron est au cœur de la vieille ville.
Exactement.
Donc, les Palestiniens ont été chassés de chez eux, et ceux qui restent dans leurs habitations subissent tous les jours des brimades, des humiliations, enfin bon, sont l'objet de...
Parfait. La situation de Nisrine est vraiment particulière, parce que elle habite sur une colline qui surplombe Hébron, et sa maison, c'est la dernière avant une colonie israélienne, les villas des colons israéliens sont juste au-dessus d'elle. Et tous les jours, Ils lancent des cailloux sur le toit, sur les fenêtres, etc. Les gamins, quand ils vont à l'école, ils font l'objet de brimades de la part des colons. C'est une situation qui est vraiment dramatique. Et elle dit, bien, je ne partirai pas. Ma résistance, c'est, ben, je reste.
Espérons qu'elle n'ait pas une mauvaise surprise quand elle va rentrer, j'y pense...
Je pense qu'il y a une telle solidarité qu'il y a des gens qui occuperont sa maison pendant qu'elle sera ici.
Donc, des expositions, donc photos, dessins, on a dit.
Oui.
Un moment le soir convivial avec la musique. On pourra apprendre à danser.
Dabke.
Parce que c'est pas facile. Hein.
Non, non, non.
Vous avez
non.
essayé.
On a essayé, ouais. Il n'arrive pas bien non plus. Mais c'est beau par contre.
Au début, ça part bien, mais après, ça se complexifie.
Non, mais je trouve que c'est une danse qui est aussi très, très entraînante, quoi, mm-hmm. très dynamique.
Et donc, pour cette fête, et notamment le samedi, on a voulu vraiment donner la place pour les Palestiniens, c'est-à-dire que ceux qui font le spectacle sont tous Palestiniens, les deux intervenants sont des Palestiniens, Sabri c'est un franco-palestinien mais qui vit là-bas depuis de nombreuses années et qui est tout à fait palestinien, et c'est important parce que trop souvent on fait parler des Français ou d'autres personnes et quand même on... Je dirais pas qu'on leur vole la parole, mais je pense que on est jamais mieux servi que par les intéressés eux-mêmes. Et donc, c'était important que ce soit une soirée et une après-midi palestinienne faite par des Palestiniens pour les Palestiniens.
Je vais prendre le programme. Voilà. Alors, on n'a plus trop le temps de faire une pause musicale. Avant de lancer, si, on va faire une petite pause musicale et on finira par rappeler les coordonnées de l'association. C'est important. Et puis les lieux.
D'accord.
صار منحدر الحقل في بلد متحفا بالهباء لأن ألوفا من الجند ماتت هناك من الجانبين دفاعا عن القائدين اللذين يقولان هيا وينتظران الغنائم في خيمتين حريريتين من الجهتين يموت الجنود مرارا ولا يعلمون إلى الآن من كان منتصرا ومصادفة عاش بعض الرواة وقالوا لو انتصر الآخرون على الآخرين لكانت لتاريخنا البشري عناوين أخرى أحبك خضراء يا أرض خضراء تفاحة تتموج في الضوء والماء خضراء ليلك أخضر فجرك أخضر فلتزرعيني برفق يد الأم في حفنة من هواء أنا بذرة من بذورك خضراء أحبك خضراء يا أرض خضراء تفاحة تتموج في الضوء والماء خضراء ليلك أخضر فجرك أخضر فلتزرعيني برفق يد الأم في حفنة من هواء أنا بذرة من بذورك خضراء تلك القصيدة ليس لها شاعر واحد كان يمكن أن لا تكون غنائية من أنا لأقول لكم ما أقول لكم كان يمكن أن لا أكون أنا من أنا كان يمكن أن لا أكون هنا كان يمكن أن تسقط الطائرة بي صباحا من حسن حظي أني نؤوم الضحى فتأخرت عن موعد الطائرة كان يمكن أن لا أرى الشام والقاهرة ولا متحف اللوفر والمدن الساحرة كان يمكن لو كنت أبطأ في المشي أن تقطع البندقية ظلي عن الأرزة الساحرة كان يمكن لو كنت أسرع في المشي أن أتشظى وأصبح خاطرة عالية. كان يمكن لو كنت أسرف في الحلم أن أفقد الذاكرة. ومن حسن حظي أني أنام وحيدا فأصغي إلى جسدي وأصدق موهبتي في اكتشاف الألم، فأنادي الطبيب قبيل الوفاة بعشر دقائق. عشر دقائق تكفي لأحيا مصادفة وأخيب ظن العدم. من أنا لأخيب ظن العدم؟
Eh bien voilà, Mano, tu vas nous dire très rapidement ce choix musical.
Eh bien c'était le merveilleux trio Joubran avec la voix de Mahmoud Darwish, sur un poème, le grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Avant sa mort, il avait d'ailleurs fait un spectacle avec le trio Joubran au TNP avant sa mort.
Donc je vais vous redonner les coordonnées de Cooper Palestine, donc www.couleurpalestine69.fr.
Couleur au pluriel.
Couleur au pluriel, palestine69.fr. Avec une adresse électronique aussi, si vous voulez par exemple vous inscrire sur un voyage, couleur au pluriel palestine tout attaché 69@gmail.com, puisque vous organisez, je rappelle, un voyage en février. Voilà. Bon, bah c'est super. Merci d'être venu, Couleur Palestine. Bah,
merci, merci.
Voilà,
merci,
on laisse la place à Info Canu. Allez, à bientôt. À l'année
au
prochaine.
Au revoir.